RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story. Autour de la table ce matin, notre éducateur Abel Boyi, l'avocate maître Sandrine Pégan et l'entrepreneur Emmanuel Devilliers. Il est temps d'accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Il s'agit de Manuel Bompard. Bonjour.
Bonjour.
Député LFI des Bouches-du-Rhône, coordinateur national de la France Insoumise. Les enquêteurs ont identifié 6 suspects dans la mort du jeune Quentin ce week-end. Si il se confirme que ces suspects sont membres de la Jeune Garde, est-ce que vous allez couper les liens avec ce mouvement Antifa?
Mais d'abord, ce mouvement, la Jeune Garde, il a été dissous. Donc je vois difficilement comment il pourrait... l'enquête pourrait aboutir sur l'idée que la Jeune Garde en tant qu'organisation a une
responsabilité. Alors il y a une confirmation attendue du Conseil d'État.
Ensuite il peut y avoir, oui mais le recours n'est pas suspensif, donc la dissolution elle est effective.
Donc pour vous la Jeune Garde n'existe plus?
Bah, elle a été dissoute.
Oui.
Donc sauf si vous avez des preuves qui vous permettent de dire qu'il y a eu une reconstitution de
dissolution. Ils se retrouvent ensemble.
Non mais ça je n'en sais rien, vous n'êtes ni enquêteur, ni vous, ni moi.
Beaucoup de témoins ont identifié des militants de la Jeune Garde à Lyon ce jour-là.
Oui mais faites attention si vous voulez bien aux témoins, parce que vous savez par exemple j'ai vu dans la presse ce matin que des témoins, comme vous dites, ont dénoncé une personne sur les réseaux sociaux, une jeune femme qui s'appelle Blandine, qui a 20 ans. Et ce matin dans la presse, sa famille dit que Blandine, elle est au Brésil, en Erasmus. Et que depuis qu'il y a eu ces dénonciations sur les réseaux sociaux, elle est menacée. Que sa famille est menacée, qu'elle est sous protection policière. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être prudent. Il y a une enquête qui est en cours. Maintenant, moi, j'ai condamné dès la première heure ces faits-là, parce que évidemment, je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'on frappe un homme à terre, qu'on tue quelqu'un. Et évidemment, c'est totalement étranger à ce que sont les méthodes politiques et les principes politiques de la France insoumise.
Sauf que dans votre groupe parlementaire, il y a un député LFI, Raphaël Arnaud, qui est le cofondateur de cette Jeune Garde. Cette Jeune Garde qui a été soutenue par Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais...
L'été 2023, Jean-Luc Mélenchon est allé au camp d'été de la Jeune Garde. Lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, décidait de dissoudre la Jeune Garde, vous étiez contre.
Bien
vous
sûr.
L'avez d'ailleurs manifesté à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu jusqu'au bout ce mouvement?
Pas du tout. Écoutez, regardez. Moi, je soutiens et je continuerai à soutenir des groupes et des militants qui
violence.
Font un travail d'autodéfense populaire.
L'autodéfense, c'est de la violence.
Mais non, justement. C'est bien la distinction qu'il faut poser dans ces faits. Moi, je soutiens des groupes ou des militants qui font ça. Pourquoi? Parce que vous avez un contexte à Lyon qui, depuis des années et des années, fait que vous avez des groupes d'extrême droite qui sèment la terreur dans la ville, et je voudrais bien qu'on puisse le dire quand même.
Ismaël Ali a été tué au mois de janvier.
Il y a un jeune homme qui a été tué avec un meurtre raciste, il a été retrouvé dans un étang. Il y a des personnes LGBT ou des personnes racisées qui se font agresser dans la rue.
Donc c'est aux gens de faire la justice eux-mêmes.
Non, attendez, laissez-moi terminer si vous voulez bien. Ça, c'est le contexte à Lyon. Et donc, il y a des gens qui se sont organisés pour faire en sorte que les personnes soient en sécurité, pour faire en sorte que les événements puissent se tenir. Quand c'est de l'autodéfense, maintenant précisément, si vous allez me laisser jusqu'à mon terme, et vous allez comprendre la distinction qui est très importante. Précisément, quand il s'agit de se défendre, j'appuie et je soutiens ces initiatives.
Donc, vous avez l'impression que
il s'est défendu. Est-ce que vous avez l'impression que Quentin s'est défendu? Pas du tout.
Madame,
il a été lynché. Ils étaient 6 ou 10 sur lui.
Madame, à lui taper sur la tête, monsieur.
Vous pouvez pas dire ça. On parle pas d'autodéfense. Il était pas en train de se défendre.
Si vous m'avez laissé terminer ma phrase plutôt que de m'agresser pour commencer,
mais
madame.
Parce que vous pouvez pas dire ça, monsieur Bompard.
Madame, laissez-moi terminer mon propos au lieu de le couper. D'accord?
Alors, terminé.
Moi, je soutiens les initiatives d'autodéfense et donc je ne soutiens pas et je condamne absolument le fait qu'on frappe un homme à terre parce que ça n'a rien à voir
même dans le terme
autodéfense. Vous voyez cette distinction?
Le terme autodéfense est très ambigu.
Si vous m'aviez laissé parler jusqu'au bout, vous l'auriez compris.
Oui, mais madame Bompard, le terme d'autodéfense est très ambigu.
Voilà,
Jeune Garde organisait des camps où ils apprenaient à se battre, des arts martiaux, etc. On sait très bien que l'autodéfense, c'est faire le coup de poing. Je comprends pas ce que vous préconisez. Dans un État républicain, c'est la police qui assure l'ordre, c'est pas les gens qui eux-mêmes vont dans la rue se défendre ou s'autodéfendre.
Depuis la nuit des temps, il y a des services d'ordre dans les organisations politiques.
Oui.
Vous êtes d'accord?
Oui.
Et ces services d'ordre, ils s'entraînent pour pouvoir faire face à une attaque. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens violents.
Les services d'ordre ne sont pas condamnés pour violence, comme l'a été Raphaël Arnaud.
Évidemment.
Que vous avez ensuite investi.
Condamné définitivement en décembre 2020.
Investi alors qu'il a été condamné pour des violences.
C'est bien, parce qu'on va faire la collection. Oui. Vous connaissez le motif de cette condamnation? Vous connaissez les contextes de cette condamnation? Oui, oui. Vous connaissez les
circonstances
de cette condamnation? Non, non. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez lu le procès verbal de cette condamnation, madame? Vous êtes avocate.
Mais
est-ce que vous l'avez lu?
Je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est comme un casier judiciaire. Peu importe.
Attends,
c'est
la manifestation qui est importante. Pas peu importe.
Alors, expliquez-nous.
Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait une manifestation à Lyon de personnes LGBT. D'accord? Et il y a 80 néo-nazis qui ont attaqué cette manifestation. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Et Raphaël Arnaud a arrêté une personne. Ça s'est fait sous une caméra de vidéosurveillance. Il n'y a pas eu un coup qui a été porté. Et ce qu'on a reproché à Raphaël Arnaud dans cette condamnation, on lui a dit « Ah, vous avez fait le travail de la police. »
Donc la justice,
eh ben oui, j'aurais préféré que ce soit la police qui fasse son travail ce jour-là. Parce que quand on attaque à 80 néo-nazis une manifestation LGBT, eh ben oui, normalement c'est
donc
à la police de s'interposer et faire en sorte que les personnes... Non, je ne la conteste pas. Je vous dis quel a été le contenu de cette condamnation. C'est ça. Dans les faits, c'est pas une contestation. La justice dit ça. Dit ces faits-là.
Reconnaissez que...
Donc ça n'a rien à voir avec
cette
agression.
Violence.
Ça n'a rien à voir avec des
coups portés. D'accord, mais reconnaissez que cette violence n'a rien à faire en politique.
Mais quand on attaque une personne, il faut savoir pourquoi on l'attaque. Il faut connaître le contexte. Faut pas jeter des accusations comme ça.
Alors, monsieur Bompard, on reste sur Raphaël Arnaud, qui est donc, je le rappelle, qui est fiché S. Vous cautionnez le fait qu'il ait dit par rapport à cette femme qui s'appelle Alice Cordier, on va lui mettre une balle dans
il
la tête.
Il n'a jamais dit ça.
Parce qu'il y a des enregistrements
il
qui,
n'a jamais
justement,
dit ça. Et madame, il n'a jamais dit ça et vous sortez des citations d'un contexte. Maintenant, vous
d'accord.
avez dit.
Il n'y a aucun contexte qui peut justifier, on va lui mettre une balle dans la tête. C'est comme Rima Hassan, excusez-moi, monsieur Bompard, qui dit
non,
et qui
vous,
a relayé sur les réseaux.
Vous pouvez multiplier les mensonges et les fake news, mais ça n'en fera pas des vérités, oui. madame. Et le fait que, puisque vous répétez ça, comme si c'était infamant.
Elle a relayé que Nemesis, il fallait qu'elle soit dissoute dans l'acide. Oui, c'est la même chose.
Pas du tout, madame.
Ah bon? Non, c'est vrai, à chaque fois, je ne fais que mentir.
Bah là, en l'occurrence, je ne me permettrai pas de dire ça, mais là, en l'occurrence, c'est ce que vous faites. Vous commencez par dire Raphaël Arnaud a été fiché S. Est-ce que vous savez que la fiche S est une mesure administrative?
Et alors?
Que c'est pas une mesure de condamnation judiciaire?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous savez qu'il y a sans doute dans vos rédactions, vous les journalistes, des personnes qui sont fichées S? Ça n'en fait pas des délinquants.
Ah, bah, si vous avez des infos,
il y a
faut les donner.
Un certain nombre de journalistes qui sont fichés S.
Ah, bah,
ça devrait être un critère d'inéligibilité, ça d'ailleurs, d'être fiché S. Ça devrait être un critère d'inéligibilité.
N'importe quoi, madame.
Ah, si, mais
le principe de la fiche S, c'est une surveillance parce que c'est des gens qui ont accès à des données ou à des questions sensibles. Et il y a différents degrés d'ailleurs de fiche S. Et d'ailleurs, le principe de la fiche S, c'est que c'est une mesure administrative de renseignement et que précisément, ça ne devrait pas se retrouver dans la presse et sur la place publique pour essayer de stigmatiser les opposants
politiques. La question, Manuel Bompard.
Donc vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on fait.
Oui, mais Manuel
Bompard, attention à ce qu'on
quand
dit.
On est membre d'un parti qui aspire à prendre le pouvoir, peut-on sincèrement s'appuyer sur des mouvements aussi sulfureux que celui de la Jeune Garde? Sincèrement, et je le dis sans polémique. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il veut être président de la République.
Oui.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être à l'Élysée en s'étant appuyé sur des personnes comme Raphaël Arnaud qui sont très contestables
et des mouvements très violents. Et son assistant parlementaire.
Il n'est pas contestable. Raphaël Arnaud a une doctrine et sa doctrine, c'est celle de l'autodéfense. A toujours été celle de l'autodéfense. Oui. Et d'ailleurs, la Jeune Garde a été fondée.
Donc, si vous êtes au pouvoir, l'autodéfense sera généralisée.
Mais non, précisément.
On pourra tous aller faire le coup de poing quand on n'est pas d'accord.
Bah non, précisément, monsieur. Parce que si je suis au pouvoir, je peux vous dire, si on était au pouvoir, que ça ferait des années et des années que les groupes fascistes qui sèment la terreur dans les rues de Lyon auraient été mis hors d'état de nuire. Vous voyez?
D'accord.
Parce que vous savez, monsieur.
Il n'y aura que l'ultra-gauche qui aura le droit d'être là.
Depuis 10 ans, non, pas du tout, monsieur.
Avec 10 000 militants et 3 000 fichés S.
Pas du tout, monsieur. Mais vous savez, depuis 10 ans.
De la violence, elle est aussi la ultra-gauche. Elle est à l'ultra-droite, ça existe, mais aussi l'ultra-gauche.
Attendez, monsieur. On va dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous savez que depuis 10 ans à Lyon, il y a eu 100 attaques de l'extrême droite, des agressions au coup de couteau, de gens qui sortaient des bars? Et ça se fait dans une impunité.
Il y a aussi des condamnations.
Malgré nos alertes.
Il y a aussi des condamnations dans l'ultra-gauche.
70% des faits dont je suis en train de vous parler de l'extrême droite à Lyon n'ont donné lieu à aucune condamnation, monsieur. Aucune condamnation. Et vous pourrez vérifier si les chiffres que je vous donne sont vrais ou s'ils ne sont pas vrais. Donc non, évidemment.
Donc au pouvoir, vous continuerez à vous appuyer sur ce type de mouvement.
Mais je ne m'appuie sur rien, monsieur. Moi, je suis un gars de la concorde et de la paix civile.
Ah bon?
D'accord? Et quand des personnes s'attaquent à des gens en raison de leur couleur de peau, de leurs origines, de leur sexualité...
Mais il faut laisser faire la police. C'est son métier.
Bah non, mais justement, il faudrait que la police fasse davantage son métier sur ce sujet. Pourquoi vous avez jamais parlé du fait que l'extrême droite...
Là, on a l'impression que vous
pourquoi
nous décrivez...
Pourquoi vous n'avez jamais parlé, monsieur, du fait que l'extrême droite a tué 12 personnes depuis 2022 dans ce pays? Pourquoi vous en avez jamais parlé? Pourquoi vous avez jamais parlé du rugbyman argentin, monsieur Aaron Bourou,
qui a été parlé.
Tué?
Mais on en a parlé.
Ce n'est pas vrai.
Mais
pourquoi
si.
Vous avez jamais
c'est,
parlé
c'est un mensonge.
Monsieur,
là, du coup, c'est vous qui mentez,
monsieur,
là, cette fois-ci.
Vous, bah, sortez les vidéos.
Mais bien sûr qu'on a parlé. Bah, je peux vous dire, j'ai fait des émissions, monsieur, sur BFM TV, sur l'histoire de ce rugbyman.
Monsieur, laissez-moi terminer. Est-ce que vous avez déjà prononcé une fois le nom de monsieur Jamel Benjabala, oui, qui en 2024 s'est fait tuer par un militant d'extrême droite?
Oui. On en a parlé
deux
également.
Fois dessus.
Oui. On
en a jamais parlé, vous en avez parlé. Oui. Et vous oui. pourrez, alors, je pourrais vous en faire
moi,
la démonstration.
Je suis surpris de vous voir énervé.
Je
ne
suis pas énervé, je suis très calme, mais je suis très ferme.
La meilleure défense, c'est l'attaque, vous en faites la démonstration. Mais moi, l'image que j'ai de vous, avant ce matin, c'est celle d'un éternel étudiant à la terrasse d'un café qui refait le monde. Alors j'ai regardé votre programme, il y a rien qui tient la route. J'ai regardé tout votre programme. Voilà.
Allez-y, monsieur.
Alors,
mais moi, là, c'est vous question, qui vous énervez. Moi, je suis pas énervé du tout.
Vous
posez,
non, il vous pas, prêt
il
à répondre.
Il parle fort.
De
bah,
manière
il parle fort,
très,
mais c'est d'après l'habitude.
En s'accrochant à sa place comme un vieux dignitaire soviétique, avec sa carrière d'opportuniste.
Allez-y.
De vieux bourgeois, je parle de Jean-Luc
oui.
Mélenchon.
Soyez pas insultant quand même.
Oui. Bourgeois, avec ses outrances mégalomaniaques.
Allez.
Avec ses amis dictateurs.
Allez.
Qui mettent les peuples dans la famine.
Allez.
Il vous fait pas honte, monsieur Mélenchon?
Non, c'est vous qui me faites honte de parler comme ça. Vous me faites honte, monsieur. J'ai honte pour vous. De
ça
répéter.
Fait juste écho avec
j'ai
ce que pense la France.
J'ai honte pour vous
hein.
de répéter comme ça les mensonges que vous entendez sans jamais les appuyer sur des faits. Monsieur, dites-moi.
Et les dictateurs sud-américains,
monsieur,
c'est pas des faits.
Monsieur,
Cuba dans la misère depuis Batista,
monsieur,
c'est pas des faits.
Monsieur, allez, vous allez prendre votre boîte à meufs Venezuela, vous allez la renverser. C'est bon, on la connaît. Monsieur.
La Bolivie.
Monsieur, la Bolivie. Vous voulez qu'on parle de la Bolivie,
oui.
monsieur? Vous voulez qu'on parle de la Bolivie?
Oui.
Evo Morales, vous le connaissez, l'ancien
oui.
président
non,
bolivien.
Non, mais ne faites pas de
non,
diversion.
Non, mais vous voulez parler de la Bolivie, c'est
monsieur
vous qui avez parlé
Mélenchon
de la Bolivie.
Monsieur Mélenchon et votre parti,
vous ne connaissez rien, la Bolivie.
Des dictatures
vous n'en savez
sud-américaines.
Rien, monsieur.
Donc
vous ne savez même
cette...
pas, vous ne savez
crier,
même pas positionner
crier,
la Bolivie oui. sur une carte oui. du monde. Oui. Et vous venez me donner des leçons. Alors, monsieur, maintenant, vous allez me dire, mais attendez, moi, madame, on m'agresse, je réponds. Vous voyez, monsieur, vous allez me dire, vous allez vous calmer d'abord, parce que moi, je suis pas là pour répondre à vos intimidations et à vos agressions. Donc, premièrement, vous allez vous calmer, parce que moi, vous me parlez pas comme ça. Je suis pas votre ami, on se connaît pas. D'accord? Ça, c'est pour être clair et pour être ferme. Maintenant, monsieur, dites-moi une déclaration de ma part. Une déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Une déclaration de qui que ce soit qui, une fois dans sa vie, a appelé à la violence. En politique. Allez-y.
Monsieur Mélenchon,
donnez-la-moi.
Ramenez-moi
l'orscalpe.
Ramenez-moi l'orscalpe en parlant du collectif
Monsieur
Némésis.
Monsieur Mélenchon,
Manuel, qu'est-ce que vous racontez?
Ramenez-moi l'orscalpe en parlant du collectif Némésis.
C'est pas vrai.
C'est violent quand même.
C'était dans un meeting. Regardez, madame, parce que moi je connais le contexte. J'ai travaillé
avec vous. Expliquez-nous le contexte.
C'est faux.
Vous connaissez le contexte? C'était où, madame?
Il y a toujours le contexte, vous savez.
Non, mais madame, c'était où? Vous avancez une accusation, dites-moi où.
C'était lors d'un meeting.
Expliquez-nous.
Ah ouais. Vous pas, hein?
Oui,
vous avez
pris
un extrait, vous l'avez trouvé sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas vérifié ce qu'il y avait derrière. Donc c'est un meeting à Toulouse qui a eu lieu il y a quelques oui. semaines, monsieur, dans lequel nous étions en meeting, pacifiquement et tranquillement, et des militantes du collectif Némésis oui. sont rentrées à l'intérieur du meeting pour essayer de le perturber. Il y avait un service d'ordre de la France Insoumise, pacifique, vous voyez, qui les a fait sortir calmement.
Comme
elles
quoi,
avaient une banderole. Monsieur, elles avaient une banderole. Mais oui, parce que le principe service d'ordre mais de la France.
Ce sont des femmes.
Elles avaient une banderole.
On les voit.
Elles avaient une banderole. Et Jean-Luc Mélenchon a dit en plaisantant, vous pouvez le voir sur cette vidéo. Ramenez-moi son scalp, c'est-à-dire ramenez-moi cette banderole. Et là, vous faites croire que Jean-Luc Mélenchon a appelé à la violence. Mais en fait, vous n'en savez même pas. Vous ne connaissez même pas le contexte. Vous ne savez même pas où c'est.
Quand on dit le scalp, on parle d'une banderole.
Non, mais vous arrêtez de raconter n'importe quoi, monsieur.
Non, mais
vous savez.
Manuel Bompard. Alors ça vous gêne qu'il y ait des perturbations de meeting. Mais quand par exemple des féministes rentrent dans une salle pour perturber un spectacle d'un humoriste qui avait été accusé d'agression sexuelle et qui a été blanchi par la justice, là vous trouvez ça formidable. Donc c'est deux poids, deux mesures. Moi
mais
je veux bien condamner toutes les intrusions
mais
dans les meetings et les salles, mais alors dans ce cas-là c'est pour tout le monde.
Mais est-ce que j'ai frappé ces gens moi? Moi je frappe personne.
Le Némésis il frappe pas. Les femmes, la Lise Cordier elle va vous frapper. Enfin sincèrement vous n'allez pas me dire vous Manuel Bompard vous avez peur d'une jeune
mais
fille.
J'ai pas dit que j'avais peur d'elle. Mais si vous trouvez désormais que dans la démocratie à laquelle vous aspirer. Quand des formations politiques avec lesquelles on n'est pas obligé d'être d'accord organisent des meetings ou des réunions publiques, vous considérez que n'importe qui peut rentrer à l'intérieur pour venir
alors
faire de la provocation?
Alors condamné à chaque fois, parce que vous applaudissez lorsque des gens vont perturber un meeting de Jordan Bardella ou un humoriste qui a été condamné ou qui a été blanchi pardon, pour agression
mais
sexuelle.
Non,
ça vous paraît ça formidable parce que la cause est juste.
Mais
donc il y a des causes qui sont justes pour vous et puis des causes qui ne sont pas justes.
C'est pas le sujet. Vous m'avez interrogé sur. Mais non, c'est pas du tout le sujet. Vous m'avez interrogé sur quelque chose qui s'est passé à Toulouse en essayant d'attribuer parce que c'était ça le début de notre discussion.
Il a quand même dit
d'attribuer à Jean-Luc Mélenchon des propos violents, alors qu'il n'y avait aucun propos violent. D'ailleurs, ce jour-là, les personnes de Némésis, elles sont sorties très calmement et très tranquillement.
Ouais,
et
ramenez-vous leur calme, ça fait bien penser à la banderole.
Non, mais d'ailleurs, monsieur, d'après ce que dit monsieur,
et d'ailleurs, monsieur, depuis des années et des années, dans tous les meetings, toutes les réunions publiques de la France Insoumise, il y a des gens qui viennent nous menacer. Alors parfois, c'est juste, comme vous l'avez
comme
dit,
du RN.
Des gens qui rentrent dans une banale. Mais monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a 2 ans, à Bordeaux, dans une conférence avec mes collègues Louis Boyard et Carlos Martins Bilongo, il y a 30 néonazis avec des barres de fer qui sont rentrés pour essayer de frapper. Et pourquoi la police qui est arrivée sur place, elle les a même pas contrôlés, monsieur? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous dites que c'est à la police de faire son travail. Très bien, je suis d'accord, on les a
appelés. Donc la police ne fait pas son travail.
Pourquoi ce jour-là, elle ne les a pas contrôlés? Pourquoi? Pourquoi? Répondez à cette question. Pourquoi? Donc nous, le service d'ordre de la France Insoumise, il fait preuve d'un courage et d'une exemplarité absolument extraordinaire. Il n'a jamais frappé personne. Il a toujours repoussé les gens. Tranquillement,
et calmement.
On verra ce que dit l'enquête. Ce que dit l'enquête.
Si c'est des membres de.
Personne de la France Insoumise n'a été impliqué.
Non, mais si c'est des membres du personnel qui étaient là pour sécuriser la venue de Rima Hassan.
Mais absolument pas. Rima Hassan, elle est venue dans cette conférence. Elle est arrivée sur place à la conférence. Malheureusement, cette scène qu'on a vue, elle avait déjà eu lieu. Je peux même vous en faire la démonstration. Oui, c'est assez simple.
C'est dans ce contexte. Cela.
Oui, mais vous pouvez donc pas mettre en cause des gens qui accompagnaient Rima Hassan et garantissaient sa sécurité puisqu'ils n'étaient pas sur place. Donc là, j'en ai la certitude absolue, monsieur. Ah, ou alors, vous êtes capable de me dire pourquoi la vidéo qu'on a vue, il fait jour, et quand Rima Hassan arrive à la conférence à 18h10, il fait nuit. Vous voyez,
donc tous ces gens-là étaient là, alors, ça n'avait rien à voir avec la venue de Rima Hassan.
Le service d'ordre de la, mais qu'est-ce que j'ai, à quel moment j'ai dit ça? Le service d'ordre de la France Insoumise, qui était mobilisé ce jour-là, n'a eu aucun contact d'aucune sorte que ce soit avec aucun des groupes qui étaient à l'extérieur. D'ailleurs, Rima Hassan est même resté 15 minutes sur le perron de Sciences Po à l'issue de sa conférence et ça se passait très bien.
Alors,
donc,
on
il
va
faut pas lui faire porter une responsabilité sur quelque chose qu'elle n'a pas.
Eh bien, on va continuer à en parler parce que le ministre de l'Enseignement supérieur vient de déclarer qu'il voulait interdire les meetings type celui de Rima Hassan.
C'est un meeting, c'était une conférence.
Oui, alors on va dire meeting-conférence à Sciences Po parce que ces meetings provoquent un trouble à l'ordre public. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. On écoutera le ministre qui s'appelle Philippe Baptiste, pour ceux qui ne le savaient pas. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Maître Pégan, Emmanuel Devilliers, Abel Boyi et notre invité Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur national de la France Insoumise. Monsieur Bompard, je voudrais vous faire écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui a annoncé ce matin sur BFM TV qu'il n'y aurait pas d'autres meetings dans les universités s'il y a un risque de trouble à l'ordre public.
Ce qui est sûr, c'est que avec les risques qu'on a aujourd'hui, qui sont maintenant tristement très très clairs, évidemment, non, il n'y aura pas d'autres meetings de ce type-là, évidemment, dans les établissements. Je veux dire, c'est pas possible, puisque les troubles à l'ordre public, qui sont malheureusement, et pardon de le dire comme ça, mais avérés de manière extrêmement brutale.
Et il n'y aura plus donc de Rima Hassan à Sciences Po.
Bah, c'est scandaleux, parce que en fait, on a besoin dans nos universités d'avoir du débat politique, quel qu'il soit d'ailleurs. On a besoin d'avoir du débat politique.
Donc on peut accueillir tout le monde aussi.
Mais attendez. Si maintenant il suffit qu'un ministre considère qu'il y a trouble à l'ordre public, regardez la logique folle dans laquelle ça va nous mener. Ça veut dire que quelqu'un que je n'aime pas, moi, qui va être invité, je n'aime pas, ça veut dire que je ne partage pas ses idées politiques, qui va être invité dans une université. Je vais faire quoi? Je vais appeler un rassemblement devant, je vais envoyer des courriers à l'université, de telle sorte à ce que le ministre dise, il y a un trouble à l'ordre public, donc je vais interdire sa participation. C'est un critère qui est un critère arbitraire. On peut pas fonctionner comme ça. La vérité, c'est que la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de garantir la capacité de chacun à pouvoir exprimer librement ses idées. Et donc, quand il doit y avoir un événement. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser sur le drame qui est survenu à Lyon, puisque manifestement, on sait que Némésis avait informé, que la préfecture de Lyon avait été informée du fait qu'il allait avoir une manifestation devant. On peut se poser la question de savoir quelles ont été les mesures de sécurisation qui ont été mises en œuvre. Pourquoi il n'y avait pas, par exemple, on a vu une première scène qui est une scène d'altercation entre Némésis et un groupe d'étudiants. Pourquoi il n'y avait pas de cordon policier?
Donc là, vous demandez plus de police En général, c'est l'inverse.
Mais moi, non, c'est pas l'inverse. Ça dépend, en fait.
Bah, vous avez des mots très durs.
Je demande une police qui est républicaine, ouais, qui respecte les règles déontologiques. J'ai jamais dit que j'étais contre la police. Tout ça est absurde. Mais
vous dites, par exemple, les hommages à Quentin ont été interdits à Toulouse par le préfet, justement parce qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Donc là, vous dites, il faut laisser les hommages à Quentin se réaliser aussi.
Mais ça dépend si c'est des hommages qui sont des hommages pacifiques, calme, et encore une fois, quelles que soient les idées des personnes qui les portent, moi je suis évidemment pas d'accord avec la mouvance politique à laquelle appartenait cette personne, qui était une personne qui était engagée dans un certain nombre de groupes d'extrême droite néo-nazis. Je suis évidemment pas d'accord avec sa mouvance.
Néo-nazis, non?
Bah écoutez, franchement, excusez-moi, vraiment je trouve c'est, faut faire attention parce que donner l'impression de vouloir parler d'une personne qui vient de décéder, mais ce que vous dites est faux. Il y a des photos de lui, y compris dans des défilés néo-nazis, pardon. Donc je suis désolé de devoir le dire, mais en l'occurrence c'est la vérité. Donc et ça ne justifie évidemment pas, on va le dire comme ça pour pas qu'on me fasse des procès qui seraient particulièrement odieux et infamants, ça ne justifie évidemment pas qu'il soit mort. Donc si c'est des manifestations calmes et pacifiques, oui. Si c'est des gens qui vont avoir des propos qui sont des propos haineux, racistes, xénophobes, alors là, évidemment, non, parce que c'est un délit et c'est un trouble à l'ordre public.
Abel Boyi.
Alors moi, je vais commencer mon propos en me faisant l'avocat du diable. Il y a une chose que je vous reconnais, c'est que vous ne vous plaignez pas à la hauteur de tout ce que vous prenez dans la gueule. Ça, c'est une réalité et ça, on ne le dit pas assez. D'autres partis en prennent plein dans la gueule, mais vous faites partie de ceux qui en prennent quand même beaucoup. Maintenant, moi, la chose qui me gêne avec LFI, mais comme avec tous les partis politiques, moi, mon reproche sera vraiment global. Parce que moi, je fais partie de ceux qui, en voyant le spectacle politique, se dit, ben moi, je vais être soit dans l'abstention, soit dans le vote blanc. La première chose en ce qui concerne LFI, quand vous vous adressez à la population, vous ne parlez pas à tous les Français, vous donnez l'impression de ne vous adresser qu'à votre base électorale, en fait. C'est en gros, restons forts face à la tempête, et vous n'avez pas cette démarche de rassurer des personnes qui peuvent avoir peur à tort ou à raison, parce qu'un propos peut être mal interprété, mais une communication peut être maladroite aussi. Et j'ai pas l'impression, quand je vous entends, quand j'entends vos collègues, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, que vous allez vers ceux qui sont susceptibles d'être comme moi, d'être dans l'abstention, ou même de voter dans d'autres partis pour se dire, on a un projet pour la France, on veut vous parler à vous aussi. Et la dernière chose, et je finirai dessus, pour moi, tous les partis sont coupables d'une communication violente. Qu'est-ce que ça fait pour les gens comme moi qui essayons d'être mesurés? J'ai pas envie de vivre dans la France, et je vais prendre les citations de tout le monde. Ou la police tue, ou le blanc est raciste, ou le noir est violeur, ou l'arabe est terroriste, ou le juif a plein d'argent, ou le chef d'entreprise c'est un salopard qui abuse du prolétariat, et vous êtes tous complices, chacun dans votre idéologie, de cette communication radicalisée qui fait que nous on est pris en étau au milieu. Et pour des personnes comme moi, qu'est-ce qui se passe au quotidien? Je vais dire une chose qui va dans un sens, ben je vais me faire traiter d'islamo-gauchiste. Je vais dire une chose qui va dans un autre sens, je vais me faire traiter d'arabe, pas d'arabe de maison, de nègre de maison plutôt, ou de bounty. Parce que la communication politique nous prend en étau. Est-ce que ça, au moins, vous pouvez le reconnaître qu'il y a aussi des erreurs de tous les partis par rapport au spectacle pitoyable que nous voyons?
Bah, d'abord, évidemment qu'il peut y avoir des erreurs dans tous les partis, y compris à la France Insoumise. Moi, je considère pas que nous sommes parfaits et que toutes nos communications sont extraordinaires. Ça peut arriver, comme tout le monde, parce que nous ne sommes que des êtres humains, que nous puissions faire des erreurs. Par rapport à vos questions, je veux vous dire deux choses. Premièrement, je regrette si vous avez l'impression qu'on ne s'adresse qu'à une partie de la population parce que ce n'est pas notre intention. Et d'ailleurs, c'est dommage, peut-être qu'on parle pas suffisamment des programmes et des propositions, mais vous trouverez aucune de nos propositions. Évidemment, vous pouvez être d'accord, pas d'accord avec nos propositions, ça s'appelle la démocratie. Mais vous ne trouverez aucune de nos propositions qui ne s'adresse pas à la population dans son ensemble, qui ne s'adresse qu'à une catégorie particulière de la population. Là, on va parler des élections municipales. Quand vous défendez la gratuité de la cantine scolaire, ça s'adresse à l'ensemble de la population. Mmh. Quand vous défendez une politique de lutte contre le logement indigne, ça s'adresse à l'ensemble de la population. Donc, je regrette si vous avez ce sentiment. Sans doute, ça veut dire qu'il faut qu'on améliore des choses. Mais en tout cas, c'est certainement pas.
Et je le dis pour tous les partis.
Mais il n'y a pas de problème, et vous avez tout à fait le droit de le dire. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas notre intention. Pour le deuxième point que vous avez abordé, pardon. Je suis désolé, mais vous avez fait une énumération. Et complète, mais qui met sur le même plan des éléments, là aussi avec lesquels vous pouvez être en accord ou en désaccord, mais qui sont pas de même nature. Excusez-moi, pour reprendre les propos cités, hein, c'était pas les vôtres évidemment. Quand vous dites les Arabes sont des voleurs, ça s'appelle du racisme. Et le racisme en France, c'est un délit, condamné par la loi. C'est pas une opinion politique. Quand vous dites que dans telle circonstance, parce que c'est un drame. Il y a eu un gamin qui, après un refus d'obtempérer, s'est fait tuer par la police. Bah ça, ça s'appelle un fait. Ça s'appelle pas une opinion.
Et mais ça ne veut pas dire que tous les policiers sont des tueurs.
Vous avez tout à fait raison. Et aucun d'entre nous n'a jamais dit que tous les policiers.
Quand vous dites mais quand on fait une phrase qui essentialise, en fait, vous donnez le bâton alors, à ceux qui sont de l'autre côté, qui vont dire, ben la police
c'est
tue.
Un débat important.
Les Arabes sont ceci, les Noirs sont cela, et on se retrouve. Moi, nous, au milieu, on se retrouve pris en tenaille comme
compris,
ça.
Mais vous
et
permettez...
tous les partis, vous ne le voyez
pas. Je vous fasse juste une. Permettez, je vous fasse juste une remarque. Regardez, quand vous dites l'école, l'EHPAD maltraite nos aînés. Vous dites pas que toutes les personnes qui travaillent en EHPAD sont responsables d'une maltraitance. Vous dites qu'il y a un problème structurel, un manque de moyens, un manque d'encadrement qui font que on considère que nos personnes âgées sont pas suffisamment bien prises en charge dans les EHPAD. Quand vous dites l'école est à bout de souffle, vous trouvez qu'il y a un problème de financement de l'école.
C'est pas la même accusation.
Et vous dites pas que les institutrices et les instituteurs.
Mais la police tue, c'est plus fort que dire que l'école
est à bout de souffle. Mais non, mais il s'agit de poser évidemment pas une responsabilité individuelle des policiers, mais une question d'un système d'impunité qui est organisé et que l'on dénonce. Mais ça, vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais vous pouvez pas le faire sur le même plan que des propos qui sont des propos.
Non, parce qu'il nous reste peu de temps et je voudrais qu'on parle des municipales.
Je vous remercie de la question et j'espère vous avoir répondu.
Je voudrais qu'on parle des municipales puisqu'on est à 4 semaines du premier tour. La France Insoumise, historiquement, n'a pas une implantation locale encore très très forte parce que c'est un parti récent par rapport au Parti Socialiste notamment. Est-ce que vous avez des ambitions précises prendre des grandes villes qui seraient un peu des symboles? On parle beaucoup de Roubaix qui est une ville de plus de 100 000 habitants.
Oui, bien sûr, vous l'avez dit, la France Insoumise, elle a fêté ses 10 ans l'année dernière. Donc c'est un jeune mouvement politique qui, effectivement, a pas aujourd'hui une représentation, une implantation dans des conseils municipaux qui soit très importante, qui, d'un certain point de vue, fait que dans l'élection municipale, en quelque sorte, on peut que progresser. On part de pas grand-chose, il faut dire tel que c'est. Bon, oui, notre objectif, c'est d'avoir davantage de membres des conseils municipaux et pourquoi pas de gagner plusieurs mairies. Alors après, combien
c'est quoi
on
votre
verra, c'est les électrices
c'est quoi,
et les électeurs.
C'est quoi,
mais on a deux mairies
de fabrique. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi voter France Insoumise et aux municipales?
C'est une bonne question, parce que je trouve que c'est dommage qu'on parle pas suffisamment des programmes des uns et des autres. Je disais, chacune de nos listes, elle porte l'idée qu'il faut que la cantine soit bio et gratuite, parce que nos gamins...
Mais gratuit, c'est payé par quelqu'un quand même.
Non, mais d'accord, mais la différence, mais évidemment, enfin, gratuit, ça veut dire que c'est payé par tous.
Par tous les contribuables.
Et pourquoi? Parce qu'on considère que le fait que nos enfants puissent manger à leur faim, parfois c'est leur seul repas dans la journée quand vous êtes dans une famille populaire. Parfois le repas à la cantine, c'est le seul repas. Donc il faut que ça soit gratuit. Il faut pas qu'il y ait des gens qui puissent pas aller à la cantine par manque de moyens. Et il faut que ça soit bio parce que il y a des tarifs sociaux, mais parfois les tarifs sociaux, je vais pas citer de ville parce que je sais quoi, après ça pose des difficultés du point de vue du comptage du temps de parole, mais je connais un certain nombre de villes dans lesquelles vous avez des familles qui disent, moi j'ai pas les moyens, même avec les tarifs sociaux, de mettre mes enfants à la cantine. Il faut que ces cantines, elles soient bio, parce qu'on parle beaucoup de pesticides, etc. en ce moment. La nourriture de qualité, ça peut pas être réservé qu'à une catégorie de la population, ça doit être ouvert à tous. Premier sujet. Deuxième sujet, la question du logement, c'est une question centrale. Les logements délabrés, les ascenseurs qui fonctionnent pas. Et bien souvent, les mairies, elles abandonnent les habitants qui habitent. Moi, je connais un certain nombre de villes, là aussi, j'ai pas le droit d'en citer, dans lesquelles il y a des copropriétés dégradées, dans lesquelles le logement social est dans un état absolument calamiteux. Là, il faut que les pouvoirs publics
s'ouvrent.
La question de la sécurité et de la tranquillité publique, parce que souvent, on nous fait des procès sur ce sujet. Mais moi, je dis, mais c'est pas les recettes de ceux qui sont au pouvoir.
Vous voulez désarmer la police.
Attendez, faites pas de caricature. Regardez.
Dans votre programme.
Regardez.
Oui, c'est votre programme.
Non,
oui.
Mais vous caricaturez. Mais c'est pas grave.
À Strasbourg, c'est ça?
On va y revenir.
C'est votre programme, monsieur Bompard, qui est une caricature.
Non, c'est vous qui êtes une caricature dans vos questions. On l'avait vu déjà tout à l'heure.
Non,
écoutez, juste pour donner
police,
un argument, si vous voulez bien,
allez-y.
Avant de lancer une polémique.
Non, je ne sais rien.
Vous connaissez la ville la plus vidéo-surveillée de France?
Oui, c'est Nice.
Nice. Nice, il y a eu 80% sur les 5 dernières années d'augmentation des délits liés au trafic de drogue et 20% d'augmentation des violences. Vous connaissez la ville de Perpignan? Il y a eu une augmentation très importante des violences et une mairie dirigée par le Rassemblement National ces 5 dernières années. Alors moi, je veux bien qu'on essaye de me faire croire que c'est ceux qui sont au pouvoir et qui mettent en place des recettes qui ne fonctionnent pas, qui vont régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes
causés. Parce que dans les villes de gauche, on est plus en sécurité aujourd'hui?
Bah non, mais la question de la sécurité.
Pas sûr qu'à Nantes, par
la
exemple,
question de la sécurité, elle existe partout. Mais moi, j'aspire à une rupture avec les politiques qui sont à l'œuvre sur ce sujet. Et comment on fait? On fait de la prévention. On fait de la tranquillité publique. on fait de la présence humaine. Arrêtez. Mais vous pouvez souffler, monsieur.
Votre parti, mais... c'est l'anarchie, la France ruinée, la France de l'immigration sans limite, la France qui brûle, la France des émeutes.
C'est vraiment une caricature sur
Monsieur Bompard,
vous n'avez même pas d'argument, vous répétez.
Et au bout de votre programme, il y a le racisme, les Français les uns contre les autres.
Monsieur, est-ce que vous êtes capable d'avoir un débat posé,
répondez à ça.
Fait contre fait.
Bon, c'est bon. Monsieur Bompard, est-ce que vous craignez que l'affaire de Quentin, parce qu'on va revenir quand même à quelque chose d'important, est-ce que vous craignez que l'affaire de Quentin pèse électoralement sur vos listes municipales?
Non, parce que je crois que les gens sont intelligents et ils ne croient pas à un certain nombre de mensonges qui sont proférés médiatiquement en visant à faire porter quelques responsabilités que ce soit à la France insoumise dans ce drame. Vous savez, il faut avoir un peu de recul historique sur les événements. Et en l'occurrence, l'instrumentalisation dont fait l'objet ce terrible drame, elle ressemble beaucoup, par exemple, à ce qui s'est passé aux États-Unis après la mort de Charlie Kirk, où vous avez Trump qui a expliqué que c'était les démocrates qui étaient responsables, alors qu'évidemment, ils n'avaient aucune responsabilité. Donc, j'ai suffisamment de recul sur l'histoire, d'expérience et de vision internationale pour ne pas être naïf des instrumentalisations politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et je pense que les Françaises et les Français sont suffisamment intelligents pour pas tomber dans ce piège et dans ce panneau.
Parce que là, c'est bien de tomber. On vient d'apprendre que c'est Anne-Claire Legendre, une conseillère d'Emmanuel Macron, qui va succéder à Jack Lang à la tête de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Elle était conseillère diplomatique, Anne-Claire Legendre.
Je connais pas cette personne, non. Donc je peux difficilement commenter. Je ne sais pas quel est son...
d'Emmanuel Macron.
Mais par contre, j'observe effectivement que j'ai bien compris que dans toutes les nominations stratégiques ces derniers jours et ces dernières semaines, Emmanuel Macron se rapproche de la sortie du pouvoir et donc il essaye de replacer ses plus proches dans à peu près toutes les fonctions stratégiques.
Quand Jean-Luc Mélenchon sera président, il nommera aucun proche.
Jamais.
Non, mais par exemple, très concrètement, monsieur, quand on parle de la Cour des comptes, nommer quelqu'un qui est ministre en exercice, qui a donc préparé le budget, à la tête de l'institution qui va avoir ensuite pour mission d'évaluer ce budget, ça pose quand même un problème que tout le monde peut remarquer. Donc évidemment que vous pouvez nommer des gens en fonction de leur proximité politique, mais vous faites attention de respecter quand même un petit peu les institutions. Et je vois Monsieur De Villiers qui hoche la tête, vous voyez.
Bah vous êtes d'accord.
Même sur un sujet.
Il y a des convergences.
Et je préfère qu'on termine comme ça que comme au début.
Merci Manuel Bompard d'être venu dans les grandes gueules. On va continuer, on va débriefer ce que vous avez dit, on va revenir sur l'affaire de Quentin, parce qu'il y a quelques infos à vous donner. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules qui s'apprêtent à partir en tournée. Nous serons à Marseille jeudi, donc dans deux jours maintenant, au Palais de la Bourse, 9 rue de la Canebière. Les grandes gueules dans vos villes pour les municipales. On va regarder de près les sujets de préoccupation à 4 semaines du premier tour. Bien sûr, la sécurité, l'emploi, le logement, la circulation aussi dans les grandes villes comme celle de Marseille. Donc, il y aura 3 GG, dont Abel Boyi, qui sera des nôtres à Marseille. Et avec vous, puisque c'est ouvert au public, bien entendu, vous le savez, quand on vient, c'est pour vous voir et discuter avec vous. Vous pouvez participer et assister à l'émission en envoyant un mail à public@rmc.fr. Il reste des places pour Marseille, donc on sera au Palais de la Bourse. C'est vraiment dans le centre-ville. Allez, maintenant on va débriefer Manuel Bompard. Sachant qu'il semble se confirmer que parmi les suspects qui ont frappé à mort le jeune Quentin, il y a des membres de l'ultra-gauche. Il faudra précisément savoir si oui ou non ils font partie de ce qu'on appelle la Jeune Garde, ce mouvement antifa proche de LFI, puisque le cofondateur de la Jeune Garde est député La France Insoumise du Vaucluse, Raphaël Arnaud. Tout à l'heure, Manuel Bompard a essayé justement de casser ce lien, d'expliquer que La France Insoumise n'avait rien à voir avec la mort de ce jeune homme. Est-ce que vous avez été convaincu par ces propos, Abel Boyi?
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il ne réalise pas qu'il est uniquement dans un discours militant et pas rassembleur. C'est à l'image de la question que je lui ai posée. Il s'adresse à sa base électorale, alors qu'avec son leader, Jean-Luc Mélenchon, il se projette vers un projet présidentiel et ils doivent passer par la case de rassurer ceux qui doutent et ceux qui ont peur. Ils sont obligés de passer par là. Et ce qui est un peu embêtant, c'est le côté de jouer sur les mots. Je suis pas pour la violence. Mais je suis pour quand même une réponse violente face à la violence raciste. En fait, on peut pas aller comme ça. Et en même temps, après, bon, on l'interroge. C'est vrai qu'il est très bon en communication. Il est comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes, comme tu le disais. Mais il est enfermé. Ils sont enfermés dans un logiciel qui va leur porter préjudice, je pense, pour la prochaine
présidentielle. Alors, il a dit, en fait, que la jeune garde, il continue à soutenir la jeune garde qui va être dissous, hein. Il y a une décision du Conseil d'État. Mais bon, a priori, la jeune garde n'existe plus. Mais bon, semble-t-il, elle existe encore. Mais comme mouvement d'autodéfense. C'est-à-dire que uniquement là, pour se défendre des attaques de l'ultra-droite, est-ce que vous avez été convaincu par cette distinction entre ceux qui attaquent et ceux qui cherchent simplement à se défendre, Sandrine Pégan?
Il parle justement beaucoup trop d'autodéfense, donc en fait il défend ce sujet et ça veut dire qu'il soutient la jeune garde. Et quand il était là en train de nous dire « je vous défie de démontrer qu'un seul membre de la jeune garde a pu contribuer à la mort de Quentin », et ben j'espère pour lui que véritablement l'enquête ne va pas déterminer ça. Mais il se rend pas compte que c'est exactement ce que disait Abel, c'est que dans le débat démocratique, combien d'années à l'Assemblée il y a eu des invectives, il y a eu des cris, des accusations. Donc à chaque fois en fait c'est leur mode de communication. Et faut pas s'étonner que quand le débat devient un ring, la rue devient un champ de bataille. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Quentin. Donc moi il ne m'a absolument pas convaincu. Et je pense que avec cette affaire, ils sont en train de perdre les municipales.
Emmanuel de Villiers, qui a été très virulent, qui l'a attaqué sur le soutien de Jean-Luc Mélenchon à certains responsables sud-américains que tu juges plutôt être des dictateurs.
Ça lui a pas plu, d'ailleurs. Cet homme est multiforme. D'abord, il est grand. Je le souligne pour les auditeurs, ça je le savais déjà, mais il est relativement imposant, athlétique. Ensuite, il est loin d'être antipathique. Et moi, c'est quelqu'un qui m'est plutôt sympathique. Passer une bonne soirée autour de la charcuterie, de bon vin, je ne sais pas si ça l'intéresse. Il y a sûrement des débats et des discussions fort agréables à nourrir avec lui. C'est un fin dialecticien. Systématiquement, il est très subtil et très habile. Mais c'est un fin dialecticien parce que c'est un enfumeur, sur le fond. Et son programme qui est néo-communiste, il a échoué partout dans le monde. Parce que derrière une fausse générosité pour le bas peuple, il y a la dictature qui se met en place. Alors le communisme, c'est 100 millions de morts. Et en fait, il est dans une impasse. Parce que les cartes se découvrent. Abel lui-même disait que dans les quartiers populaires, les gens commencent à se détourner aussi partiellement de son mouvement. Donc, il est dans une impasse. La fin de l'alliance électorale avec les socialistes et les écologistes va totalement changer la physionomie des résultats électoraux. Et il y a aussi le problème que j'ai pointé en toute cordialité, au-delà du talent de l'intéressé lui-même, c'est Mélenchon, il y a le problème du leader Maximus ou Maximo ou je sais pas quoi, qui est une catastrophe, qui est une maintenant caricaturale, que les Français ont démasqué comme quelqu'un qui roule pour lui, qui est pressé d'avoir des élections parce qu'il est âgé en fin de carrière et qui est prêt à tout pour essayer d'arriver et finalement faire parler de lui.
Mais la France insoumise continue à séduire. C'est un mouvement à gauche qui a pris un peu le leadership. Alors on verra les prochaines élections. Alors municipales, ça va être compliqué parce que le Parti socialiste est plus implanté que la France insoumise. Sur un plan national, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est encore dans la course. Alors que au PS, on a du mal à savoir qui sera leur candidat. Non, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord.
En dehors du fait d'apprécier ou de désapprécier un tel ou un tel, la France insoumise et le Rassemblement national sont les deux projets qui sont sur des rails. Les seuls militants qui peuvent avoir des certitudes sont les militants de ces deux côtés. Tu prends Édouard Philippe, tu sais pas si c'est un Emmanuel Macron bis. Tu prends Glucksmann, Faure, Jérôme Gage ou autre. Bon, c'est un petit peu le concours des charismes de Pikachu. Tu sais pas où ça va nous amener. Donc aujourd'hui, il y a des projets qui sont là, mais ce qui est en train de se passer là, ça va leur faire du mal. Je le maintiens.
Mais nous sommes avec Patrick qui nous appelle de Lyon et qui voudrait justement nous parler de l'ambiance dans la ville, de ce qui s'y passe. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Et vous avez envie de corriger quelque chose qu'on a entendu notamment dans la bouche de Manuel Bompard, à savoir que Lyon serait une ville aux mains des identitaires, des groupes nationalistes.
Oui, on entend parler depuis deux jours, là. Tout le monde dit que Lyon, c'est la capitale des identitaires. Depuis 10 ans, il y a plus d'ultra-gauche. Il y a un quartier qu'on appelle les Pentes. C'est en bas de la Croix-Rousse, au-dessus de l'hôtel de ville de la mairie. Vous ne serez pas loin quand vous allez venir faire votre édition. C'est un quartier qui est couvert d'affiches, qui est de menaces de l'ultra-gauche. À chaque manifestation, vous avez autant plus d'ultra-gauche que d'identitaires. Hein. Il ne faut pas croire que les identitaires patrouillent la nuit dans Lyon. Mais l'ultra-gauche, la jeune garde et les milices de Raphaël Arnaud, ça fait 10 ans qu'elles sont à Lyon. Il y a autant d'ultra-gauche à Lyon que d'identitaires. Et puis, pour Manuel Bompard, je peux lui dire que la balle dans la tête d'Alice Cordier, il y a des enregistrements. S'il veut les écouter, je peux lui envoyer.
D'après lui, c'était faux.
Tout ça pour dire qu'à Lyon, il y a l'ultra-gauche est très puissante aussi. Contre les identitaires. Ils ont leurs quartiers qui sont séparés juste par la Saône. C'est simple. C'est les pentes de la Croix-Rousse pour l'ultra-gauche.
Ça veut dire quand même qu'on a une ville avec des quartiers identifiés.
Et c'est quand même le
cas dans toutes ces villes.
Les affrontements sont connus depuis longtemps, les mairies sont au courant.
Vous avez deux quartiers à Lyon qui posent problème, c'est la Guillotière.
Ça devait arriver.
La
Guillotière pour les trafics. Et puis vous avez, c'est les pentes, en bas des pentes de la Croix-Rousse.
Mais vous, en tant que commerçant, vous en subissez les conséquences ?
Je suis commerçant à la retraite, j'ai arrêté il y a 2 ans. Moi, j'étais plus du côté de la préfecture, dans le 3e arrondissement.
Vous êtes tranquille.
C'était un quartier plus tranquille, mais c'est... Les commerçants ne subissent pas, ils subissent pas la violence entre l'ultra-gauche et les identitaires. Là, ce qu'ils subissent, c'est économiquement, c'est le programme de circulation qui a été mis en place.
Les écolos. C'est l'un des sujets majeurs de ces municipales. Merci Patrick. Je vous interromps parce que Estelle Denis, je la vois, elle est en train de se préparer. Elle va venir nous rejoindre. Simplement, je précise Patrick, nous serons à Lyon le 24 février. Hein. Donc si vous voulez venir nous voir, on sera au Palais de la Bourse aussi, 20 rue de la Bourse, c'est facile à trouver. Pas loin de la préfecture d'ailleurs Patrick, pas loin de votre ancienne boulangerie. Donc venez nous voir, ça sera ouvert au public Lyon le 24 février. Estelle Denis, bonjour Estelle, je te mets ton micro parce qu'il faut tout faire ici, tu sais. C'est un côté artisanal RMC. Mais oui, il y a les artisans boulangers, il y a les artisans de la radio.
Nous sommes les artisans de l'information.
Mais bien sûr. Alors vas-y ma chère Estelle.
Salut Olivier, salut les GG. Nous évidemment on va parler de l'actualité, les crues, les inondations à répétition. Est-ce que vous seriez prêt à changer de région? Voilà, si vous êtes touché par les crues, dites-nous tout. On vous attend au 32-16 et racontez-nous comment ça se passe.
Faut aller en montagne.
Chez vous, ouais, ou dans l'est de la France. C'est très peu touché par sécheresse, inondations, crues, incendies.
Tout ça sera
On parlera de ces 52 départements qui sont repassés aux 90 km/h. Est-ce que ces 90 km/h, il faut les remettre partout?
Oui.
13h30, 6 Français sur 10 préfèrent une baisse d'impôts à de meilleurs services publics. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça? Là encore, vous venez en débattre.
Le ras-le-bol fiscal.
Nous, exactement, au 32-16. Et puis Paris qui se vide de ses habitants. On en parlera à 14h. Oui, à cause comme ça, pêle-mêle. Hein, je veux dire, des prix trop élevés, de l'insécurité, de la saleté, du surtourisme. Est-ce que la capitale vous fait encore rêver? Est-ce que vous venez parfois à Paris pour visiter les monuments? Ou est-ce vous fuyez Paris?
Quand t'es touriste, c'est pas la même chose.
Quand t'es touriste,
quand tu vis à Paris, t'as tous les inconvénients. Quand t'es touriste, t'as que les avantages.
Oui, mais les avantages, c'est quoi aujourd'hui?
Paris, c'est une belle ville. C'est joli.
Oui, d'accord. Quand t'es touriste, c'est 5 heures de les restos coûtent une fortune. Les magasins, il y en a plein de vides. C'est pas très propre. Voilà quoi.
Ah oui, même les touristes, tu t'irais pas si t'étais étrangère, t'irais pas à Paris te balader?
Si, j'irai une fois et puis après je verrai que ça me coûte 35 € pour monter sur la Tour Eiffel, qui a la queue partout et qu'on me prend pour une gogo au restaurant. Je suis pas sûre que je resterai avec la bouteille de coûte à 10 €. Tu préfères vivre en appartement ou vivre en maison?
Maison pour Abel, Sandrine.
Appartement.
Emmanuel.
Maison.
Allez, c'est terminé. Estelle vous attend 32-16. Bon après-midi.